Je voulais juste peut-être enfin, repréciser certaines choses et peut-être faire un petit résumé de tout ce qui s'est dit. Déjà, en fait, je vois au niveau des attentes, je pourrais enfin, discerner quatre types d'attentes et qui correspondent en fait à quatre niveaux dans la recherche des relations internationales. Un premier niveau qui se passe au niveau du chercheur, de l'équipe de recherche, qui est la collaboration internationale dans les projets de recherche. Donc collaboration internationale qui peut se traduire par des co-tutelles de thèse, par des projets communs au niveau européen ou vraiment dans le monde entier. Donc que une ou plusieurs, enfin deux ou plusieurs équipes travaillent sur un même projet dans des pays différents. J'ai vu également que vous avez quand même pas mal d'attentes sur qu'est-ce qu'un service de relations internationales, le fonctionnement de ce service. Donc là, je pense que Jean-Paul pourra plus développer ce côté-là. Également, donc, au niveau des relations institutionnelles, comment est-ce que deux établissements étrangers travaillent ensemble? Également, donc, au niveau des relations à plus haut niveau entre pays. Moi, le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est surtout, effectivement, vous êtes des chercheurs, des jeunes chercheurs. Vous allez être diplômés pour certains dans pas très longtemps, dans un temps un peu plus long pour d'autres. Effectivement, vous êtes spécialiste dans un domaine, mais vous êtes surtout spécialiste de la recherche de manière générale. Et comme vous faites votre thèse en France, donc vous avez été confronté on va dire à certaines démarches administratives. Vous travaillez dans une université, vous êtes inscrit dans une université, vous travaillez dans des centres de recherche, dans des organismes de recherche qui travaillent au niveau national et au niveau international. Je pense notamment au CIRAD, à l'INRA, à l'IRD, donc qui sont des organismes vraiment très 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 bien installés au niveau international. Et encore pas longtemps, le CNRS a ouvert 3 bureaux en Inde, en Afrique du Sud et à Malte, il me semble. Donc c'est vraiment des organismes qui sont installés pleinement et qui trouvent toute leur raison d'être aussi au niveau international, évidemment. Donc en fait, vous connaissez ce système de recherche français. Donc cette connaissance, cette compétence que vous avez, qui est transversale, donc que vous soyez biologiste, physicien, chimiste, cette connaissance, vous l'avez tous. Donc ne vous cantonnez pas à dire, moi ce que je connais, c'est que ma paillasse avec mes pipettes, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que vous savez comment fonctionne l'université française, vous savez comment fonctionne pour certains, donc vous avez déjà expérimenté ces relations internationales, à votre niveau évidemment, mais vous avez vu, bon, ça vous a paru plus ou moins fluide, tant mieux, c'est que le service des relations internationales a très bien fonctionné dans ces cas-là. Mais par rapport, je vais dire, à d'autres doctorants, enfin c'est pas péjoratif du tout, donc on va dire pour les étrangers ou ceux qui sont déjà partis en échange, finalement vous avez déjà expérimenté ça. Donc c'est une valeur ajoutée que vous avez déjà par rapport à des étudiants qui n'ont jamais mis, on va dire, le pied en dehors de la France, voire de Montpellier, voire de sa propre, enfin de cette seule université. Donc vraiment, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste, parce que l'expérience a montré, en tout cas dans mon cas personnel, c'est vrai que j'ai pas vendu une thèse en géosciences, j'ai vendu une connaissance du système français. Avant ma thèse, j'ai pas fait de parcours Erasmus, pas du tout. J'ai fait ma thèse, enfin j'ai commencé, je suis réunionnaise d'origine, donc je suis venue à l'université Montpellier 2, et de la licence au doctorat, je suis restée à Montpellier 2, quoi. Donc on peut pas dire qu'avant j'avais une quelconque approche des relations internationales. Après, peut-être le fait que voilà, de venir d'un endroit qui ressemble pas non plus complètement à Montpellier, c'est pas vrai. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une certaine ouverture d'esprit que j'ai senti chez chacun d'entre vous. Donc ça, c'est très très important, parce qu'on ne peut pas travailler dans les relations internationales si on n'est pas ouvert vers l'autre. Donc en voulant apprendre, connaître un peu comment fonctionne l'autre pays, même si vous êtes étranger, vous voulez apprendre comment ça fonctionne en France, quoi. Donc c'est vraiment le côté, pour moi, le côté essentiel. Donc vraiment, c'est ça, cette ouverture d'esprit et cette ouverture également sur votre thèse. J'ai entendu mademoiselle dire je me consacre à ma thèse, je finis ma thèse, après je me consacre à essayer de trouver un job après. Non, non, non. Commencez dès la première année, ou même avant la première année, je dirais, dès que vous êtes en master, posez-vous la question, je fais une thèse, pourquoi faire? Bon, après, vous commencez une thèse pour être enseignant-chercheur, chercheur ou que sais-je. Mais ça se prépare tout au long de la thèse. Donc c'est pas trop tard pour ceux qui sont en troisième année, mais j'insiste encore plus pour ceux qui commencent leur thèse en vous disant, bon, bah voilà, vous avez fait une thèse forcément pour approcher ce domaine de recherche, mais non plus vous cantonnez pas en vous disant je suis j'oublie le mot en français là, je suis obligée de continuer ma carrière dans la recherche paillasse. Pas du tout. Donc Jean-Paul et moi, nous sommes les parfaits exemples de ça, quoi. Donc ouvrez-vous, arrêtez d'écouter votre directeur de thèse aussi, là, ça je pense que ça va pas faire plaisir à Radio Campus, mais bon, c'est pas grave. Donc il vous dit à votre thèse d'abord, bah oui, mais ma thèse c'est aussi pour un projet professionnel, et mon projet professionnel ne s'arrête pas à ma thèse, quoi. Donc diversifiez vos activités, vraiment, enfin, faites de l'enseignement par exemple. Essayez dans les modules que propose la Maison des écoles doctorales. Donc une fois que vous, peut-être posez-vous un moment en disant aussi, voilà, faites un petit bilan de compétences et de ce que vous voulez faire. Et après, en fonction de ça, orientez correctement ou pas correctement, parce que des fois il faut piocher aussi, des fois en allant, voilà, par curiosité dans un module ou dans un petit déj comme ça, des fois il y a des déclics qui peuvent se passer. Donc c'est vrai que moi ça a été le cas. Ma première année de thèse, j'ai participé au doctorial. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui vraiment pour moi a été le déclic. Donc Monsieur Luc Gomel, qui travaille qui est conservateur ici à l'université et qui a beaucoup travaillé dans la communication scientifique. Et quand je l'ai écouté parler, je me dis mais c'est ça que je veux faire. Bon, après j'ai complètement changé, mais c'est pas grave. Donc ça m'a permis d'y aller, de me dire oui c'est bien, mais bon finalement tiens j'ai envie de voir un peu autre chose. J'ai vu cette autre chose, je me dis, ouais, carrément, ça me plaît carrément, quoi, donc je vais continuer. Mais il faut aller de l'avant, faut pas rester voilà, derrière sa paillasse, quoi. Donc c'est vraiment ça, parce que votre directeur de thèse, à moins que vraiment que ce soit quelqu'un de très très ouvert, il va vous aider à trouver un postdoc, mais ça va être toujours dans ce domaine, quoi. Donc qui c'est très bien aussi, hein, je dis pas, il faut aussi des chercheurs, des vrais, quoi. Donc voilà, je laisse la parole à Jean-Paul.
Merci. Je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Ingrid aussi et sur la philosophie, effectivement, du doctorant, du post-doctorant, et aussi peut-être pas des conseils, mais certaines idées que l'expérience m'a apprises. Un, vous faites une thèse, tous, il faut la mener au bout, parce que c'est très important d'avoir le titre. Votre thèse, donc il y a une spécialité, mais au-delà de cette spécialité, comme l'a dit Ingrid, je la rejoins totalement, c'est un travail d'équipe et un certain raisonnement que vous avez acquis. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'il faut que vous valorisiez. Le doctorant ne le valorise pas assez. Donc là-dessus, Ingrid vous a parlé des doctoriales. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont faites ou pas. Si vous ne les avez pas faites, je vous conseillerais de le faire. Je crois qu'il y en a une. Bon, c'est trop tard là. Il y en a une qui se tient la semaine prochaine, je crois. Ou le mois prochain, au mois de mars, oui. Au mois de mars. C'est un séminaire résidentiel qui est très important. D'une part, pour l'étudiant, parce que ça lui permet de voir d'autres horizons, mais ça lui permet aussi, et comme vous êtes là, donc de se mettre en discussion, en tête à tête ou en équipe avec d'autres étudiants des autres universités pour voir ce qui se fait. Autant, par exemple, à Montpellier 3, donc dans les sciences humaines et sociales, mais en droit aussi. Les thèses se font pratiquement donc tout seul avec l'ordinateur, la bibliothèque. Autant vous, donc dans les carrières dites des sciences dures, c'est un travail d'équipe. S'il n'y a pas de travail d'équipe, on ne peut pas réussir. Donc là-dessus, ce qu'a dit Ingrid, j'y adhère totalement, mais surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas que votre spécialité que vous avez, c'est aussi quand même tout un environnement de travail que vous avez obtenu. La preuve en est, comme elle l'a dit, donc elle a entendu Luc Gomel, qui est toujours en poste, hein, ici à Montpellier 2, et qui est donc pour la culture scientifique. C'est vrai qu'il y a plusieurs aspects. Il y a la culture scientifique, il y a la gestion scientifique, donc on va en reparler peut-être un peu de tout ça. Et puis il y avait une question, donc l'international, les relations internationales. Dans les mots, l'expression relations internationales, donc il y a les deux mots, il y a la relation et internationale. s'il y a la relation, vous avez déjà commencé, puisque vous êtes en relation avec votre directeur de thèse, vos collègues de travail. Donc, vous êtes déjà en relation. Si vous avez fait une communication un petit peu à l'étranger ou ailleurs, vous êtes aussi en relation internationale. Ça, c'est pour la sémantique des mots. Ensuite, après, il y a les services des relations internationales dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des services administratifs et logistiques qui gèrent effectivement les contrats, que ce soit Erasmus, que ce soit donc les mobilités de convention à convention. Donc, si vous voulez, c'est tout un arsenal de produits qui servent à l'établissement d'afficher et de son ouverture vers l'extérieur. Toutes les universités, dans le contexte actuel, si elles ne vont pas vers l'extérieur, seront amenées donc à être des universités un peu plus petites. Bon, regardez Montpellier. Montpellier, donc, il y a 3 universités. On est sur un cheminement, qui sera peut-être un peu long, mais à terme, je pense, donc je ne sais pas si on le verra, mais il y aura l'université de Montpellier, donc ça, nous le verrons bien, puisque les disciplines resteront les disciplines, mais c'est Montpellier qui va s'afficher, comme s'affiche Oxford, comme s'affiche donc les grandes villes. Donc, continuez dans ce sens. Ensuite, après, travaillez, si vous voulez, à l'international, c'est aussi, donc, vous voyez, j'ai dit à l'international, c'est aussi avoir la fibre du contact humain. C'est beaucoup de contacts. Donc Ingrid pourra peut-être vous dire ce qu'elle a fait. De contacts et de dossiers. Il faut avoir des compétences, bien entendu, dans un certain domaine, des compétences scientifiques, il faut avoir des compétences administratives, des compétences aussi juridiques. Ça, c'est très très important. Ensuite, après, les métiers qu'il y a dans l'international, parce que vous êtes tous aussi, et donc ça, vous l'avez dit, donc c'est quoi faire après votre thèse. Comme l'a dit Ingrid aussi, la première des choses, c'est les post-docs. Il y en a des post-docs. Un post-doc va vous donner une compétence supplémentaire, mais ne va pas vous donner le métier, sauf si là où vous y allez, vous correspondez bien au chaînon qui leur manque et on vous garde. Il y a au niveau des établissements d'enseignement supérieur, des postes de maître de conférence, de professeur des universités. Donc ceci, ça suit aussi une réglementation. Mais au-delà de ça, il y a aussi des postes au niveau des universités, des postes d'ingénieurs de recherche, ce qu'est Ingrid, ce que je suis. Ce sont des postes aussi de catégorie A de la fonction publique, ce sont des postes que l'on peut obtenir sur concours. Donc tout ça, ce sont des postes qui existent et pour lesquels vous pouvez concourir quand vous êtes docteur. On ne peut concourir à être ingénieur de recherche que si on est docteur. On ne peut concourir à être maître de conférence que si on a passé sa thèse, si on est docteur aussi. Donc il n'y a pas que la voie de l'enseignement, il y a aussi la voie de la gestion logistique, administrative. Et il y a aussi des postes au niveau du CNRS, de l'INRA, de l'IRD, mais ça je pense qu'on a dû vous le dire aussi. Il y a des postes d'ingénieur, il y a des postes de chargé de recherche, il y a des postes de directeur de recherche. Tout ça, ce sont des postes auxquels, quand vous êtes docteur, vous pouvez postuler. Il y a des postes dans la spécialité où vous êtes, et il y a des postes, par exemple, aussi au niveau de l'international, qui est beaucoup plus généraliste. Pour concourir dans les postes de l'international, je ne pense pas qu'avec votre seule thèse et sans expérience à l'international, vous aurez des chances. Faites attention. Dans l'international, on peut y arriver que quand on a aussi après une expérience.
Vous nous décrivez un peu les différents types de postes qu'il y a à faire. Alors, moi, si j'ai un poste d'ingénieur de recherche en génétique et physiologie des plantes, je vois bien ce que je vais faire. Mais un ingénieur de recherche dans les relations internationales, soit dans l'enseignement, soit dans les trucs logistiques, je sais plus quoi. C'est ça. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? C'est quoi le type de projet qu'il va mettre en place et ça va aboutir à quoi? Vous avez des exemples, quoi.
Bon, je vais faire une première réponse, peut-être que Jean-Paul complétera par la suite. Donc effectivement, un poste d'ingénieur, enfin, donc il y a plusieurs niveaux au niveau d'ingénieur. Hein. Donc au niveau doctorat, donc vous pouvez prétendre à un poste d'ingénieur de recherche, donc qui est catégorie A de la fonction publique par concours. D'ailleurs, pour ceux qui terminent leur thèse, je vous signale que le site d'inscription pour les concours va s'ouvrir très prochainement. Je pense que mars-avril, ça va s'ouvrir. Donc juste hop, petite courte info sur www.education.gouv.fr/personnel/ITRF. Vous avez toutes ces informations. Je pense que l'information dans le guide emploi également. Hein. Mais si vous en voulez plus après, je pourrais vous le spécifier. Bref, donc un ingénieur dans les relations internationales, enfin, au niveau administration, parce que moi je ne suis pas ingénieur spécialisé dans les relations internationales. Quand je suis revenue sur Montpellier, en fait, j'avais postulé pour ce poste et finalement on m'a proposé autre chose, donc qui me convenait aussi tout à fait. En fait, à ce niveau d'un ingénieur, on vous demandera surtout de faire preuve, d'avoir des activités, on va dire, de pilotage et de stratégie, c'est-à-dire par votre connaissance du milieu, du milieu dans lequel donc vous allez développer votre activité, cette université plus particulièrement, ce centre de recherche particulièrement, savoir en fait connaître. Notre université, enfin je vais parler pour Montpellier 2 parce que je vais pas m'avancer sur d'autres secteurs. Et ben on est très fort en tout ce qui est on va dire environnement, biodiversité, agro également, donc sur si là j'élargis sur le site. L'université a développé 4 grands programmes pluridisciplinaires, donc sur les thèmes de la modélisation par exemple, donc vraiment interaction entre deux disciplines, on va dire plus sciences dures, maths, physique, chimie, et d'autres sciences un peu plus du vivant, donc sur ces thèmes de modélisation des sciences du vivant et de l'environnement. Énergie, eau, et nanotechnologie. Donc en fait, c'est des gens à un moment qui se sont rendus compte, en faisant une espèce de cartographie, donc c'est le boulot qu'on nous demande tout, au quotidien, une cartographie de ce qui se passe dans l'université pour pouvoir justement cibler plus nos compétences et du coup nos relations internationales. Parce que les relations internationales, il y en a à tous les niveaux, dans les laboratoires, donc des professeurs étrangers qui viennent, nos enseignants-chercheurs et chercheurs qui partent à l'étranger. En fait, finalement, on se rend compte qu'il y a des relations privilégiées sur le site de Montpellier avec tout le contour méditerranéen, avec l'Asie. Donc en fait, on ne se rend pas compte tout seul, quoi. C'est pas, genre, à un moment, il a fallu qu'un ingénieur de recherche, accompagné donc des politiques et des chercheurs, bien effectivement, j'ai tant d'échanges avec tel secteur du monde, j'ai sur tel type de projet de recherche, donc c'est une cartographie qu'on vous demande de faire, quoi. Donc en fait, qui va permettre après aux politiques, aux conseils centraux, on va dire, d'orienter la politique de l'établissement sur tel secteur géographique ou tel secteur scientifique. Donc c'est le travail qu'on nous demande vraiment au quotidien. Après ça, du coup, une fois que vous aurez établi ça et que le politique aura dit voilà, ben moi je vais travailler avec l'Asie sur on va dire tout ce qui est agriculture, environnement. Donc encore une deuxième phase de prospection, on va dire moi je travaille surtout avec nos chercheurs travaillent surtout avec tel organisme à l'étranger. Donc s'il n'y a pas encore de collaboration qui a été institutionnalisé, ça va être notre rôle aussi, de prendre contact avec l'université à l'étranger, avec l'organisme à l'étranger, et de dire, nos chercheurs, on a tant de chercheurs qui travaillent ensemble sur tel domaine, ça serait quand même bien de vraiment mettre ça sur le papier, et généralement, ça aboutit à encore plus de collaboration, il y a des co-tutelles de thèse qui se mettent en place, mais de façon vraiment plus institutionnalisée. Et après, le rôle, c'est aussi de pérenniser, d'entretenir cette relation. Genre, tel que vous entretenez une relation d'amitié avec des potes, c'est pareil, quoi. Il faut l'entretenir, prendre des nouvelles, savoir donner, savoir recevoir. Donc, c'est tout, et ce que Jean-Paul disait tout à l'heure, c'est vraiment des métiers de contact, en fait. Donc, avoir le sens des relations publiques, de manière générale, des relations sociales, quoi, des relations humaines. Tout simplement. Donc après, il y a toute une série, il y a des choses qui sont très très administratives, soit, mais ça, je pense que ça vaut vraiment la peine, quoi.
Donc, il y a à peu près la moitié du temps dans un service des relations internationales. Donc, il y a le directeur du service, puis après, bon, le vice-président, c'est plus le côté politique, puisqu'il est avec le président. J'ai demandé à être directeur et vice-président. Puis, on m'avait proposé vice-président, mais j'ai demandé à être directeur, je veux être, ça me regarde, responsable de ce qui était mis en marche. Donc, il y a 50% qui est quand même du temps pour tout ce qui est l'administration et le juridique. Et ça, c'est important dans un service de relations internationales de baigner, parce que quand vous allez faire une convention, il faut la lire et voir s'il y a quelque chose qui va pas, vous proposer le changement. Ensuite, après, vous vous faites confirmer par le service juridique de l'établissement. La particularité d'un travail au niveau des relations internationales d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est qu'il faut, à mon sens, et c'est ce que je développe, travailler toujours en partenariat étroit avec les services dédiés à l'enseignement, à la formation et les services dédiés à la recherche. Ce n'est pas vous tout seul qui allez faire quelque chose. C'est toujours là aussi, et c'est pour ça que les personnes qui viennent, si vous voulez, d'une thèse, c'est un travail d'équipe. Et ce travail d'équipe, c'est là que ça paye. Parce que, bon, on va à l'international, soit pour faire une formation en commun avec quelqu'un d'autre, soit pour un laboratoire de recherche. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut travailler. Ensuite, après, c'est voir quels sont, comme l'a dit à juste titre Ingrid, donc cette cartographie, tout le monde l'a fait, et voir vers quel pays on peut y aller. On ne peut pas non plus aller partout. Faire du saupoudrage, c'est pas bon. Enfin, là, je rentre plus dans la politique. Excusez-moi. Du saupoudrage, c'est pas très bon. Il y a des actions ponctuelles, oui, ça, on peut le faire. Mais du saupoudrage, c'est pas très bon. Enfin, c'est pas la politique de l'Université Montpellier. On est bien entendu aussi sur le Maghreb, on est aussi dans la francophonie. Là aussi, tiens, une adresse peut-être que vous pourrez consulter au parasal, c'est l'AUF. L'AUF, donc, actuellement, ouvre aussi un bureau au niveau de l'Amérique latine à partir du mois prochain. Donc l'AUF, c'est à consulter. Il y a des postes éventuellement à prendre aussi au niveau de l'AUF. Mais ces postes-là à l'AUF seront bons pour vous, vous êtes bien jeune, mais quand vous aurez peut-être un peu plus d'enrichissement professionnel au niveau de votre parcours. Donc là-dessus, après, c'est développer bon, une politique. Donc comme je l'ai dit avant, il y a une différence à faire entre l'Europe et le reste du monde. L'Europe, c'est une particularité. On est subventionné par l'Europe pour faire tous les Erasmus. Les échanges donc de mobilité, qu'elles soient donc étudiantes par Erasmus, il y a une mobilité aussi par Erasmus enseignante et il y a aussi une mobilité administrative. C'est-à-dire que des gens au niveau de l'Europe s'échangent entre eux leur façon de fonctionner et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus donc d'étudiants qui sont donc en mobilité. La mobilité est très importante. Donc bon, là, il y en a pas mal qui sont en mobilité, qu'ils soient européens ou pas européens. Il faut donc continuer à la faire. Alors, je ne sais pas si on a répondu totalement, mais voilà, il y a deux parties, sachez-le.